Le journal de Jérémy Pignard.
Bonsoir. À 5 jours du vote du budget de l'État devant le Parlement, 8 amendements ont été déposés. L'un d'eux propose de retirer les 11 millions de la BNS du budget, ce qui ne respecterait plus le frein à l'endettement. Le festival Photonature des Franches-Montagnes s'agrandit. 12 photographes animaliers seront présents du 15 au 17 décembre, 3 de plus qu'à l'accoutumée. Un gros dispositif policier déployé dans une école de Cortaillot dans le canton de Neuchâtel cet après-midi. Un individu menaçant a été interpellé, personne n'a été blessé. Temps sec ce soir et cette nuit, des éclaircies demain en matinée, mais le retour de la pluie en cours de journée et des températures douces pour la saison jusqu'à 9 degrés en pleine. Les débats sur le budget 2024 du canton du Jura devraient principalement tourner autour du respect du fameux frein à l'endettement. Le Parlement jurassien doit se prononcer mercredi sur le projet du gouvernement qui prévoit un déficit maîtrisé à 3,3 millions de francs. Les propositions d'amendements ont été communiquées aujourd'hui. Il y en a 8, dont une qui porte sur un montant important, François Comte.
La somme en question se situe à plus de 11 millions de francs. Une minorité de la commission de gestion et des finances emmenée par la droite propose de biffer le montant qui provient des deux parts issues des bénéfices de la Banque nationale suisse. Elle estime que la somme prévue n'est pas garantie et ne doit donc pas figurer au budget. Le gouvernement et la majorité de la commission soutiennent le maintien du montant. Si l'amendement de la minorité était accepté, le budget ne respecterait plus le frein à l'endettement. Le Parlement devrait alors voter un arrêté pour déroger au mécanisme à la majorité qualifiée, soit 2/3 des voix. Si l'arrêté ne devait pas passer la rampe, le budget 2024 du canton du Jura devrait alors être soumis au peuple en votation.
Après la démission annoncée de Pascal Eschmann, le Centre Jura a trouvé un président ad intérim. Marcel Meyer de Porrentruy dirigera le parti jusqu'à la nomination d'un nouveau président lors du congrès du 19 mars prochain. Il est actuellement membre du comité directeur et député au Parlement jurassien. Marcel Meyer prendra ses fonctions le 1er janvier. Du changement aussi à la tête des jeunes libéraux radicaux Jura, Anaël Lovi a décidé de quitter la présidence au 31 décembre. La succession se fera courant janvier. Âgé de 22 ans, il veut se consacrer à son mandat de maire des Genevais et à son stage d'avocat. Et décidément, c'était la journée des chaises musicales dans les partis politiques, puisque le Parti Socialiste Autonome dans le Jura bernois a un nouveau président lui aussi. Mathieu Omar, 24 ans, a été élu hier soir à la tête du PSA. Jeanne Luza prend, elle, la fonction de secrétaire générale. Le festival Photonature voit plus grand. La 5e édition de la manifestation Tenyon se tiendra du 15 au 17 décembre à la halle polyvalente du Noirmont et non plus à la halle cantine de Seignelégier. Notamment pour des raisons de place, les organisateurs veulent accueillir plus d'exposants. Et ce sera déjà le cas cette année avec 12 photographes présents, 3 de plus que d'habitude, dont 4 de l'arc jurassien. La preuve que la manifestation se fait sa place dans le monde de la photographie animalière, le responsable des exposants, Jonathan Valla.
Ça fait plaisir parce qu'il faut savoir que chaque photographe animalier en fait, est un peu un porte-parole de la nature et chaque photographe a son propre regard sur la nature et sur les animaux. Donc ça permet de sensibiliser le public encore plus. On est toujours nous allés vers les exposants, parce qu'au début on n'était pas très connus et autres. Et maintenant on commence à avoir les demandes, comme l'invité d'honneur cette année, Adrien Favre, qui nous a coupé l'herbe sous le pied, qui nous a demandé à nous avant que nous on lui demande ce qu'on était sur lui pour l'invité d'honneur.
Et si on parle un petit peu du thème de cette nouvelle édition, de cette 5e édition, le murmure des forêts.
Avec les thèmes précédents qu'on a eus, que ce soit le thème de l'eau, le regard féminin l'année passée, ou encore la 2e édition qui était sur les prédateurs, on s'est dit c'est vrai qu'on a des belles forêts sur le massif du Jura et autres, donc pourquoi pas les mettre en avant.
Un des propos recueillis par Loïc Georgi. 3 conférences auront lieu durant cette manifestation. Neil Villard viendra parler de son livre Héritage et l'Organisation pour la protection des alpages s'exprimera 2 fois sur les grands prédateurs en Suisse. La balade de Cépret se raconte en 240 pages. La promenade jalonnée de sculptures célèbre ses 30 ans avec la parution d'un livre. L'ouvrage prend la forme de guide pour les visiteurs. Mais pas que, il est complété par des essais ainsi que d'une chronologie de toutes les sculptures qui ont vu le jour sur le site depuis sa création. Le livre est le fruit d'un travail d'équipe entre écrivains, journalistes, historiens de l'art. Le directeur artistique de la balade de Cépret revient sur l'élaboration de ce projet, Adrien Jutard.
J'ai fait appel à un historien d'art extérieur au canton parce que je voulais quelqu'un qui apporte un regard neuf sur cette histoire. Donc c'est Philippe Clerc, historien d'art d'origine fribourgeoise installé à Genève, qui s'est chargé, on va dire, de l'introduction sur la balade et puis à la fois toutes les questions historiques, chronologiques et du répertoire. Ensuite, on a un essai de Pascal Rebété, qui est écrivain, hein, il n'est pas la peine de le présenter dans le Jura. Pascal Rebété, lui, il fait sa balade et puis il nous offre effectivement cette vision très proche de sa perception, de ce qu'il voit ici, sans filtre, avec cette écriture vive et puis rythmée qu'on lui connaît, donc ça c'est très beau. Et puis ensuite, j'ai fait appel à Sybille Homeline, qui est d'abord une journaliste culturelle de la NZZ, qui est curatrice, qui a été directrice d'école d'art, qui connaît bien, on va dire, l'art contemporain. Et Sybille Homeline, elle fait un panorama, effectivement, avec la question « L'art dans la nature, c'est quoi ce phénomène ?» Et donc là, on a une vision beaucoup plus large que simplement Cépret.
L'ouvrage sur la balade de Cépret est disponible dans les librairies de la région. Les habitants de Soubaix vont se prononcer ce soir sur une zone 30. Le projet de limitation de vitesse à l'intérieur de la localité est à l'ordre du jour de l'Assemblée communale. Le budget 2024, qui table sur une perte de 46 000 francs, sera aussi soumis au vote. Rendez-vous est donné à 20h15 à la Maison des Œuvres. C'est un magasin parfois perçu comme d'un autre temps. Les drogueries ont encore pourtant de l'avenir. C'est ce qui ressort des chiffres de l'Office fédéral de la statistique en 2022. Le nombre d'établissements diminue, oui, chaque année, mais les chiffres d'affaires de ces magasins existants augmentent nettement chaque année. Le canton du Jura, qui ne compte plus que 3 drogueries, suit encore la tendance. La droguerie Mûre à Courgenay changera d'ailleurs de propriétaire. Après 40 ans d'existence, elle sera reprise par une jeune diplômée. Faustine Adat croit, dur comme fer, que la branche a un bel avenir.
La droguerie du futur, selon moi et selon d'après ce qu'on nous a enseigné récemment à l'école supérieure de droguerie, bien c'est une petite droguerie, une petite surface avec un assortiment très restreint, très ciblé, qui met en avant les préparations maison et personnalisées. Et puis aussi un terrain de communication qui est varié, c'est-à-dire faire marcher les réseaux sociaux, fidéliser sa clientèle via les réseaux sociaux, via des cartes de fidélité, etc. Oui.
Vous nous parlez de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a évolué à travers le temps par rapport à tout ça?
Il n'y a pas longtemps de ça, c'était une droguerie au sein de laquelle on retrouvait des produits comme des peintures ou encore de la quincaillerie, même dans certaines, qui avaient aussi un assortiment de produits techniques très développés, choses qui ne sont plus tant d'actualité. Enfin, on a de moins en moins de demandes au niveau de la clientèle et du coup, qu'on voit de moins en moins dans les rayonnages des drogueries. Là, c'est vraiment, on axe de plus en plus vraiment l'assortiment sur les préparations maison, le conseil vraiment global du client et puis les préparations qu'on fait devant lui au moment même, quoi.
Un dossier complet sur l'avenir des drogueries à retrouver sur notre site internet rfj.ch. Un vent de panique cet après-midi dans un établissement scolaire de Cortaillot dans le canton de Neuchâtel. Un individu menaçant s'est introduit dans l'école. La police neuchâteloise a dû déployer un gros dispositif pour finalement l'interpeller. Aucun enfant n'a été blessé. Les élèves ont pu être évacués progressivement en fin d'après-midi. Les précisions de Georges-André Lozouet, porte-parole de la police neuchâteloise.
Vers la fin de l'après-midi, un individu s'est introduit dans l'école primaire qui se trouve ici à Cortaillot, a tenu des propos menaçants à l'intention probablement des élèves ou du personnel. Le personnel enseignant a très bien réagi puisqu'ils ont appliqué une procédure dite AMOC qui est enseignée dans les écoles dans le canton de Neuchâtel avec le soutien de la police neuchâteloise. Donc les enfants ont immédiatement été mis en sécurité dans les classes, les portes fermées en attendant l'arrivée des premières unités de police qui sont intervenues très rapidement sur les lieux et qui ont pu interpeller cet individu immédiatement.
Est-ce que cet individu est lié à l'école de Cortaillot?
Cet individu n'est pas lié à l'école de Cortaillot. Il s'agit d'un jeune homme qui est en cours d'identification. Manifestement, cette personne semble perturbée.
On a évoqué, on a entendu des témoignages qui parlaient de propos à la Akbar. Est-ce que vous pouvez confirmer?
Je peux vous confirmer ces propos. S'agissant des détails de ce que l'individu a fait, pour l'instant, on ne peut pas donner ces informations.
Un des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy, une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves qui en auraient besoin. Le scandale des adoptions illégales prend de l'ampleur en Suisse. Les graves dysfonctionnements ne concernent pas seulement des enfants sri-lankais dans les années 1980. Un rapport adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral montre que des milliers d'enfants provenant d'un peu partout dans le monde sont concernés. Ils ont été adoptés entre 1970 et l'année 2000 par des familles en Suisse alors que les procédures étaient illégales. Le Conseil fédéral regrette et veut modifier les lois. Les explications à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Alors que Karine Keller-Souter était venue elle-même en décembre 2020 expliquer le scandale des adoptions d'enfants sri-lankais, la nouvelle ministre de Justice et Police Elisabeth Baumschneider et le Conseil fédéral ont délégué au directeur de l'Office fédéral de la Justice, Michael Scholl, le soin de présenter le rapport effrayant qui détaille les pratiques frauduleuses lors d'adoptions concernant de nombreux autres pays que le seul Sri Lanka. Inde, Colombie, Brésil ou encore Roumanie, 8000 adoptions sont potentiellement entachées d'irrégularités. Écoutez Michael Scholl.
On avait examiné dans les archives fédérales la période entre 1970 et la fin des années 90. On constate qu'il y a plusieurs milliers de situations qui sont potentiellement touchées. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les problèmes systémiques qu'on a déjà constatés dans le cadre des affaires du Sri Lanka, elles se sont reproduites dans nombre d'autres pays. Il y a toute une panoplie d'irrégularités qu'on a pu constater. Ça peut commencer par le cas extrêmement grave d'un nouveau-né vraiment volé à sa maman pour être vendu à des parents dans un pays de l'Ouest. Mais ça peut aussi se répercuter dans des questions comme pas d'autorisation valable d'entrée en Suisse.
Le Conseil fédéral, dans un communiqué, regrette et reconnaît que les autorités fédérales et cantonales n'ont pas pris les mesures nécessaires malgré les indices d'irrégularité. Il a demandé à un groupe d'experts indépendants de préparer une révision du droit international de l'adoption. Il a envisagé d'interdire toute adoption internationale, mais il a opté pour une réduction drastique et limitée aux seuls pays qui peuvent garantir le strict respect des procédures. Depuis 2003 et la Convention de La Haye, le nombre d'adoptions internationales a chuté à une cinquantaine par année en Suisse.
Scandale des adoptions illégales qui n'est pas sans rappeler celui des enfants placés. Le Conseil fédéral n'a pas jugé utile aujourd'hui de s'exprimer. Il a laissé le directeur de l'Office fédéral de la Justice, Michael Scholl, répondre à sa place.
Pour le Conseil fédéral, le besoin d'agir est évident. Il a décidé en trois axes d'action. La première axe, c'est vraiment renforcer la recherche des origines. La deuxième axe, c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est de renforcer la recherche historique. Et troisièmement, c'est l'axe tourné vers l'avenir. Comment est-ce qu'il faut réformer notre droit pour que cela ne se reproduise plus ? La conseillère fédérale Baumschneider s'est déjà adressée à tous les départements cantonaux compétents pour la recherche des origines pour dire qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on trouve une solution suisse pour soutenir les personnes qui sont touchées de ces irrégularités dans les adoptions.
Dans l'actualité à l'étranger, Vladimir Poutine, officiellement candidat à sa propre succession, le président russe a annoncé aujourd'hui qu'il se présentera à la présidentielle en mars prochain. Il brigue ainsi un cinquième mandat depuis une réforme constitutionnelle controversée adoptée en pleine pandémie en 2020. Il a la possibilité de se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036.
RFJ, il est 18h13.
Sport. Après un mois de disette à domicile, le HC Ajoie veut offrir une victoire à son public. Ce soir, les hockeyeurs ajoulots reçoivent Ambry à 19h45 en National League. Toujours lanterne rouge, le HCA pourra compter sur le retour de son capitaine Philippe Michael DeVos pour battre des Tessinois actuellement 9e du classement. Frédéric Gauthier est blessé, TJ Brennan malade et incertain. Ajoie-Ambry, duel à vivre en direct dès 19h30 sur RFJ avec Mathieu Schaffner et notre consultant Martin Bergeron. 5 courses, 4 podiums. Laragout Berami réussit un début de saison tonitruant en Coupe du Monde de ski alpin. La Tessinoise a pris le 3e rang du Super G de Saint-Moritz ce matin, remporté par l'Italienne Sofia Goggia. Elle a terminé à un peu plus d'une seconde de la vainqueur et à 7 centièmes seulement de l'Autrichienne Cornelia Uther, 2e. Dans l'air d'arrivée, Laragout Berami affichait sa satisfaction.
C'est un bon résultat. Je pense que j'ai pas vraiment très bien skié et je suis contente du résultat. Ça fait du bien commencer avec une 3e place, même si le timing n'est pas là. Je pense simplement que beaucoup de filles, moi comprise, on pensait que la piste allait être plus compliquée. Donc beaucoup, c'est toujours ça. Tu arrives à l'arrivée, tu te dis bon, j'ai fait trop de virages, j'aurais pu prendre beaucoup plus de risques. C'était plus simple à skier de ce que je m'imaginais.
Autre Suissesse dans le top 10, Corinne Sutter s'est classée 8e, Johanna Hélène a fini 13e, Yasmine Flouri 17e. Michel Guizine a dû, elle, se contenter de la 20e place après une grosse erreur dans le 2e secteur. Mais ce n'était pas dû à la mauvaise visibilité sur le haut de la piste, selon Michel Guizine.
C'est vraiment pas grave, c'est beaucoup mieux que qu'on pense d'ici en bas parce que ouais, la piste elle est magnifique et c'est vraiment vraiment bien. Et si tu sais que tu peux avoir la confiance que la piste elle tient bien, c'est aucun problème aussi si la visibilité elle est un peu plate. Et puis non, c'était tellement cool à skier. Malheureusement, je fais une énorme faute, mais c'est comme ça, il faut mettre à côté, il faut se bien préparer pour demain.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale Marie Tcheriani. Demain, c'est une descente qui est au programme dans la station Grisonne. Départ à 10h30. Fin de 9 mois de suspense, les athlètes russes et bélarusses pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais sous bannière neutre. Le Comité international olympique a donné son autorisation aujourd'hui, mais sous strictes conditions. Sont concernés les sportifs individuels qui ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine et ne sont sous contrat ni avec l'armée, ni avec des agences de sécurité nationale. 8 athlètes russes et 3 bélarusses répondent pour l'instant à ces critères.